Cette fois-ci, les deux minutes sont passées. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée pour le 7e et dernier épisode du premier acte. Ce soir, l'épisode, c'est l'histoire de l'église d'Arbiste. Entre guillemets, il s'exprimera mieux pourquoi. Je vous remercie d'être là au nom de la femme. Et je remercie aussi l'Assemblée Ménonite d'avoir bien permis de faire cette réunion ici, de nous avoir accueillis. Et je signale pour ceux qui ne connaissent pas, la FAM, ça veut dire l'Association Française d'Histoire Anabaptiste Ménonite. Je m'appelle Thierry Huquel, j'en suis le président, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je n'oublie pas de me présenter. L'exposé de ce soir est fait dans le cadre d'exposés et de manifestations, de conférences et d'expositions qui, sous l'égide « En Dieu mon appui » ou « L'histoire des confessions chrétiennes », c'est la devise du pays de Montbéliard qui a été reprise. Et ce travail de l'Association française d'histoire est fait en collaboration avec les églises luthériennes, catholiques, ménonites, orthodoxes, adventistes, armées du salut, d'arbistes et baptistes. Je vous les ai donnés dans l'ordre des exposés. Baptiste, ça ne sera pas un exposé, ça sera une conférence. 1524-1949, c'est marqué sur le livre mais pas là, et sur les affiches. 1524, pour une bonne partie, je vais commencer à pouvoir la prochaine fois faire le tour dans l'Assemblée pour demander. C'est la venue de Guillaume Farel dans le pays de Montbéliard. Et 1949, pourquoi? C'est 425 ans après la venue de Guillaume Farel. On a pris une date pas trop récente pour s'arrêter, pour faire l'histoire. Il vaut mieux faire de l'histoire que des petites histoires. Ça évite des histoires. Quelques petites informations pratiques. Les conférences, depuis qu'elles ont lieu dans cette salle, sont enregistrées. Enfin, les exposés sont enregistrés. Ils sont disponibles vers l'opérateur là-bas au prix de 15 francs, la cassette. Donc, si vous voulez, vous pouvez. Il y a aussi de disponibles des casques. N'hésitez pas. Il y a deux petits appareils au-dessus des haut-parleurs qui vous permettent de ne pas avoir de fil. Donc, ça peut être agréable si vous voulez bien entendre. Il n'y a pas de traduction. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Pierre Henrineau, professeur de sciences naturelles au collège Courbet de Grand Charmont.
Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, je veux remercier l'Assemblée Ménonite de nous avoir prêté ces locaux. C'est vrai qu'après les premières conférences, on s'est fait beaucoup de soucis. On s'est demandé où est-ce qu'on allait vous mettre, étant donné que notre salle est assez petite. Et c'est pour nous vraiment quelque chose que nous apprécions de pouvoir faire l'exposé ici. Je remercie aussi les personnes qui m'ont aidé dans mes recherches. Je ne suis pas originaire de la région, sans doute que mon accent m'a trahi. C'est vrai que leur contribution m'a été très utile. Alors mon exposé va comprendre quatre parties. Tout d'abord, une partie sur l'histoire générale des assemblées de frères. Puis une deuxième partie sur l'histoire locale, suivi de deux autres parties assez courtes sur la doctrine, ce que nous croyons, et un petit aperçu de la situation actuelle des assemblées de frères. Alors tout d'abord, je voudrais faire une remarque sur le mot d'arbiste, comme Thierry l'a annoncé. C'est vrai que, un peu comme les luthériens et les ménonites, nous ne voulons pas nous reconnaître dans un homme. Donc nous utilisons assez peu cette expression de darbiste. Bon, nous l'acceptons comme étiquette parce qu'il faut bien classer les gens. La différence, c'est que vous ne trouverez jamais ce mot dans un écrit qui émane des frères, puisque nous disons plutôt les frères, et ni sur nos lieux de culte. Sur nos lieux de culte, on trouvera plutôt une plaque qui indique soit assemblée de frères, soit plus simplement assemblée chrétienne ou réunion chrétienne, tout simplement. Alors j'ai résumé ça par une phrase un peu qui, pour bien faire comprendre, c'est que si vous voulez, les darbistes, c'est nous, mais nous ne sommes pas darbistes. Alors pour me simplifier la vie, j'utiliserai tantôt frère, tantôt darbiste. Deuxième remarque sur l'histoire des frères. Donc, il n'est pas très facile de faire des recherches sur leur histoire parce que eux-mêmes ne s'y intéressent pas beaucoup. Je cite Pierre Blanc, qui est un des rares darbistes à s'être penché sur notre histoire. Il a écrit une thèse donc là-dessus. Il dit « La perspective historique du mouvement darbiste connaît de très sérieuses lacunes et elle est parfois même inexistante. Toute considération historique est pratiquement mise de côté par les assemblées de frères, tant au niveau local qu'au niveau national, voire international. Car les frères considèrent qu'il s'agit là d'une préoccupation terrestre, susceptible de mettre en valeur tel ou tel acte, tel ou tel serviteur de Dieu, qui dès lors pourrait s'enorgueillir, ou de moins être glorifié. Ce qui serait fondamentalement contraire à la pensée du Nouveau Testament, qui demande à tout homme de regarder Christ comme le modèle parfait qu'il convient d'imiter. » Bon, alors, c'est vrai que on est assez d'accord avec ça, mais c'est vrai que ça ne facilite pas non plus les recherches. Donc, il existe quelques biographies, en fait, qui ont été surtout écrites par ce que j'appellerais des observateurs de la grande famille protestante, disons, mais rarement par des darbistes eux-mêmes. Alors, nous pouvons donc attaquer l'histoire générale. Il est généralement admis que la première assemblée de frères s'est formée à Dublin en 1827. Donc, vous allez pouvoir suivre en même temps sur la carte qui est projetée. Donc là, un petit groupe de croyants, quelque peu déçus par la tiédeur de l'église nationale, qui est l'église anglicane, se réunit dans la maison de l'un d'eux pour lire la Bible, pour prier, mais aussi pour partager la Sainte-Cène. On connaît le nom de quatre d'entre eux, même si l'histoire les a un peu oubliés, et les darbistes aussi d'ailleurs. Il y a deux étudiants en théologie, âgés d'une trentaine d'années, Anthony Groves et John Gifford Bellett. Il y a Édouard Cronin, chez qui ils se réunissent, et un dénommé Francis Hutchinson. Autour d'eux va se former un groupe qui va croître très vite. La preuve, c'est qu'ils changent de salle 3 fois en 3 ans. Il faut noter que dans un premier temps, ils continuent à fréquenter leur église d'origine. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à inviter leur pasteur à leur réunion. Mais cette réunion de Dublin, qui est donc considérée comme le point de départ, n'est que la partie visible de l'iceberg. Un peu partout en Europe et dans la plupart des pays christianisés, souffle le vent d'un réveil spirituel qui touche surtout les églises protestantes, donc qui est bien connu par ailleurs, et se fait soit en leur sein, soit en marge des églises protestantes. Ainsi apparaissent ce que l'on appellerait aujourd'hui des églises de maison, regroupant des croyants qui insistent sur 3 points. Premier point, la nécessité d'une authentique conversion personnelle, en réaction au formalisme religieux qui les entoure. Deuxième point, très important, la présence du Seigneur au milieu des 2 ou 3 réunis en son nom, selon le verset de Matthieu 18. Et puis troisième point, le sacerdoce universel, bon, qui est bien connu des protestants, mais qui se fait ici sans nomination. C'est-à-dire que chacun peut prêcher et prier lors de ces petites réunions qui commencent à exister. Alors ce phénomène se retrouve, je dirais de façon indépendante d'ailleurs, hein, en Irlande, dans le sud de l'Angleterre, mais aussi en Suisse, avant même Dublin d'ailleurs, dès 1817, suite aux prédications de Robert Aldan sur l'Épître aux Romains, il se lève une génération d'évangélistes laïcs non ordonnés qui prêchent en marge des églises, le salut par la foi, et non les idées de Rousseau, comme il le reproche à l'église officielle. Parmi eux, César Malan, qui est un peu leur père spirituel, leur tuteur, Frédéric Monod, Ami Bost, Félix Neff, Louis Barbet, Albert Dantan et bien d'autres. D'ailleurs, tous ne rejoindront pas le mouvement des frères, mais appartiennent à cette génération d'évangélistes. Le fait qu'ils soient en général interdits de parole dans les temples attire les foules dans leurs réunions de maison. On trouve aussi le phénomène en France. Donc, vous avez j'ai mis un point bleu par foyer un petit peu où j'ai pu trouver ces petites réunions qui commencent à se former. En France, ce sont souvent les gens modestes qui boudent le temple, quelque peu embourgeoisé depuis le concordat de 1805. Et ils se réunissent dans les fermes. Alors on trouve ça, comme vous le voyez, en Haute-Loire, dans la Drôme, dans le Béarn, d'où je suis originaire, et dans l'Est de la France en particulier. On trouverait la même chose en Allemagne et en Italie. Alors, ces groupes reçoivent des appellations diverses selon les régions. En Grande-Bretagne, on parle de frères, brethren. En Suisse, on parle de momiers. Et au Pays de Montbéliard, on parlera de piétistes. Il y a eu aussi d'autres appellations dans d'autres régions. les pieux, les réveillés, les bigots, les puritains. Alors pourquoi Dublin est-elle considérée comme la première assemblée? C'est pour deux raisons essentielles. C'est que tout d'abord, elle a été la première à accomplir un acte ecclésiastique significatif avec la célébration de la Sainte-Seine. Dans les autres groupes, ça ne se faisait pas encore. Donc dès 1827. Et puis, deuxième chose qui a fait sa célébrité, c'est qu'elle va recevoir la visite de celui qui va devenir le leader incontesté du mouvement, c'est-à-dire John Nelson Darby. Alors voici John Nelson Darby, photographié à Genève alors qu'il avait 40 ans. Darby est né en 1800. C'est le fils d'un riche négociant irlandais qui possède plusieurs navires. Il doit son deuxième prénom à son parrain qui était l'amiral Nelson, pas très populaire en France. Darby a été un élève brillant. À 19 ans, il entame déjà une carrière d'avocat. Il sort d'ailleurs premier prix de son école. Mais à l'âge de 22 ans, il découvre la foi, il renonce à sa carrière et entreprend des études de théologie. Son père est vexé, il est peu religieux, il le déshérite, mais un oncle subvient à ses besoins pendant ses études. À 26 ans, il est ordonné prêtre d'une paroisse rurale, anglicane, en Irlande, où ses paroissiens apprécient son dévouement. Mais presque aussitôt, deux événements vont marquer un tournant dans sa position ecclésiastique. Le premier événement, c'est un débat qui agite l'Église anglicane à cette époque, qu'on appelle la question catholique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, le gouvernement d'Angleterre veut reconnaître légalement l'existence confessionnelle des catholiques, ce qui n'était pas le cas depuis 200 ans, je crois, et leur ouvrir donc l'accès aux fonctions officielles. Alors, la Haute Église s'y oppose, l'Église anglicane. Darby reçoit donc de son archevêque anglican l'ordre de signer une pétition contre ce projet, donc contre les catholiques. Darby refuse. L'idée que l'Église fasse pression sur le pouvoir politique pour disqualifier d'autres chrétiens le révolte. Et c'est dans cet état d'esprit que va se produire un deuxième événement. Enfin, c'est alors que Darby est animé par cet état d'esprit qu'il va, fin 1826, être blessé par un cheval et doit devoir se faire soigner à Dublin, où il va rencontrer fortuitement donc Bellett, Groves, Cronin et Hutchinson, donc les quatre que j'ai mentionnés au début. Alors, à partir de cette rencontre, Darby va peu à peu mûrir une conception assez révolutionnaire, disons, de l'Église, révolutionnaire pour l'époque. Donc, voici les quatre points principaux. Donc, j'ai demandé qu'on affiche les quatre versets sur lesquels un peu se base Darby. Donc, voilà ces quatre fondements, je dirais, un peu des assemblées de frères. Première chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui suscite un ministère, non pas l'ordination. Donc l'Esprit distribue à qui il lui plaît. Darby abandonne l'idée de la transmission apostolique qu'il estime perdue, vu que des hommes, je cite, « des hommes irréligieux sont consacrés, alors que des fidèles n'ont pas le droit de prêcher ». Deuxième point, aucune organisation n'est nécessaire pour se réunir entre chrétiens, donc selon le verset que j'ai cité de Matthieu 18. Il y a partout de vrais chrétiens, dit Darby, seulement ces disciples du Seigneur doivent se réunir, se regrouper, sans le concours d'aucun cadre rigide. Libres et spirituels comme ils sont, aucune organisation n'est nécessaire, car ils peuvent former la véritable Église. Voilà ce que dit Darby. Alors ce qu'il faut noter, c'est que de 1830 à 1836, donc au début, Darby va donc rencontrer des assemblées naissantes en Irlande et en Angleterre, mais il n'a toujours pas rompu avec l'Église anglicane, ce qui au passage lui donne la possibilité de prêcher un peu partout. Mais en 1836, il va alors ajouter un troisième point, il prône la rupture avec les églises nationales, auxquelles il reproche leur association avec le pouvoir politique. Il faut dire qu'il a tenté un dialogue avec son archevêque de Dublin, et ce dialogue a échoué. Donc Darby reproche à l'Église anglicane son association avec le pouvoir politique qui lui semble impossible. Il dit l'Église a une vocation spirituelle, une vocation céleste et donc ne doit pas s'associer avec le pouvoir politique. Et donc voilà, sortons vers lui, hors du camp, vers le Christ, hors du camp. Nous n'avons pas ici de cité permanente, nous recherchons celle qui est à venir, donc la vocation céleste de l'Église. D'ailleurs, puisqu'il va commencer à encourager les croyants à sortir des églises, évidemment, il va devenir très impopulaire parmi les églises établies, du moins celles desquelles il demande de sortir. Et c'est vrai qu'on retrouve des traces de cette impopularité jusque dans le pays de Montbéliard. Toutefois, et c'est le quatrième principe, les croyants qui restent dans ces églises continueront à être reçus dans les assemblées de frères pour la Sainte-Seine, comme cela se faisait au départ. C'est-à-dire que chacun venait de son église et chacun participait à la Sainte-Seine sans difficulté. Cela va continuer après cette étape, avec toutefois un peu plus de réserve, de prudence. Il s'agira de vérifier que chaque personne qui vient d'une église établie converti réellement, et bien un enfant de Dieu. Alors, ces bases étant posées, à partir de 1837 et pratiquement jusqu'à sa mort, Darby va entreprendre de nombreux voyages. Et c'est un peu pour cela qu'il est si connu et que le mot darbyste est apparu, parce qu'il est devenu un peu le leader du mouvement et surtout, je dirais, son fédérateur. C'est-à-dire que partout où il est passé à partir de ce moment-là, ces groupes qui étaient sortis des églises et qui se réunissaient dans le privé sont devenus des assemblées de frères darbistes. Alors il est passé en Europe un peu partout, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'était quelqu'un qui avait une activité débordante, puisqu'il est aussi l'auteur de très nombreux ouvrages qu'il écrivait entre ses voyages, on peut supposer. Bon, voilà une petite idée de sa bibliothèque. Un total de 14 000 pages de brochures et de livres divers. Il a également, ce qui est assez remarquable, traduit la Bible en trois langues, donc en français, en anglais et en allemand. La traduction française, donc la traduction version Darby, est connue pour sa littéralité, même si elle est d'un style assez ardu, assez difficile à lire. Elle est toujours en vigueur dans les assemblées de frères aujourd'hui, c'est celle qui est utilisée. Il a fait également une version en anglais qui s'appelle New Version, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès. Et également une autre en allemand avec un comité. Et donc cette Bible s'appelle la Bible d'Elberfeld, puisque c'est là que Darby et ses collaborateurs l'ont traduit. Donc Darby maîtrisait six langues, le grec et l'hébreu évidemment, et puis le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Alors de 1837 à 1848, le mouvement des frères va prendre une grande ampleur. En Angleterre, par exemple, on compte bon nombre d'assemblées de plus de 500 personnes. Il y a rien que pour la ville de Londres 30 assemblées. Mais ce succès va être freiné, atténué à partir de 1848, puisque le mouvement des frères va se retrouver scindé en deux tendances suite à ce qu'on appelle l'affaire Newton. Alors je pourrais expliquer tout à l'heure, si vous voulez, dans les questions, qu'est-ce que c'était cette affaire Newton. Donc le mouvement est scindé en deux tendances, les frères exclusifs, qu'on appelle aussi darbistes, et qui sont représentés au pays de Montbéliard, et les frères larges, qui n'ont pas d'autre appellation. Donc le leader un petit peu des darbistes, bon, sera Darby évidemment, et puis pour les frères larges, on connaît surtout Müller, Georges Müller, qui est connu pour son œuvre humanitaire. Il est le fondateur des orphelinats de Bristol. On l'appelait le père des orphelins, c'était un homme très populaire en Angleterre. Alors pour vous donner une petite idée de la différence entre les deux tendances, je vais résumer de façon simple. Disons que les frères exclusifs sont plus stricts, en particulier au niveau de la participation à la Sainte-Seine, mais qui sont restés proches des principes d'assemblée, de départ. Les frères larges sont plus tolérants, plus ouverts. Mais aujourd'hui, contrairement aux autres, ils nomment souvent des responsables ou des pasteurs dans leur communauté, ce qui ne se fait pas dans les frères exclusifs, conformément à ce qui se faisait au début. Donc vous avez ici Georges Müller. Alors depuis cette époque, pour rapidement l'histoire au XXe siècle, le mouvement s'est maintenu avec plus ou moins de succès sur ses implantations d'origine, qui restent essentiellement les pays anglo-saxons, et ils ont surtout progressé en terre de mission. On compte plusieurs centaines d'assemblées dans des pays comme l'Inde, le Pakistan et le Tchad, pour les frères larges. Donc Pakistan, c'est quand même remarquable parce que c'est un pays qui est à 97% musulman. On a plusieurs centaines d'assemblées de frères larges. Et pour les frères exclusifs, on peut citer l'Égypte et le Zaïre avec aussi plus de 100 assemblées. Alors, on peut maintenant passer à l'histoire locale. Alors, pour situer l'apparition des assemblées de frères au pays de Montbéliard, il faut remonter aux environs de 1820. J'ai cité tout à l'heure les piétistes, donc, qui étaient des réunions de maison au pays de Montbéliard. Il en existe à cette époque, en 1820, une quinzaine. Les principales sont Montbéliard, Betoncourt, Terre-Blanche, sur la commune de Hérimoncourt, et Colombier-Châtelot. Alors, vous avez ici une représentation du lieu de rassemblement des piétistes de Colombier-Châtelot. Donc, c'est une grange, la grange Beausserdet, qui a été aussi appelée la grange du réveil, bon, en allusion à ce réveil. Et vous avez là donc une reproduction d'un tableau de Paul-Élie Dubois, qui est un peintre de Colombier-Châtelot et qui est lui-même issu de la communauté d'arbistes. Alors, quelle est l'origine de ces piétistes? Alors, on cite l'influence de Jean-Frédéric Nardin, qui au début du XVIIIe siècle appela les protestants à se réveiller, mais je laisse le soin à Bernard Huc, dans 15 jours, pour sa conférence, de vous dire ça en détail, puisque c'est le sujet de sa conférence, dans 15 jours. Toujours est-il que ces piétistes se réunissent dans les maisons et dans les granges, mais continuent toujours d'aller au temple. Donc ce sont des réunions supplémentaires qui ont lieu dans les familles pour, on pourrait dire, on dirait aujourd'hui, pour ceux qui sont le plus motivés. Parallèlement, il y a un deuxième événement qui se produit au pays de Montbéliard, c'est que à Glay, il s'installe un institut protestant, dont les locaux existent encore d'ailleurs, qui est fondé par le pasteur Jacquet, originaire de Suisse. Ce Jacquet souhaite former des instituteurs, donc le voici, qui soient en même temps des évangélistes. Mais Jacquet va vite donner du souci aux instances de l'Église luthérienne pour deux raisons. Tout d'abord, c'est qu'il célèbre le culte à la fois au temple et à l'institut. Il célèbre deux cultes le dimanche, donc à l'institut avec ses élèves, sans autorisation du directoire. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il a l'habitude de visiter les groupes de piétistes et il tient des réunions d'évangélisation dans leurs locaux. Alors, en 1833, il va être révoqué, ce qui va marquer un tournant pour plusieurs groupes de piétistes. On peut penser que, sans cet événement, les groupes de piétistes seraient restés des réunions de maison au sein de l'Église luthérienne, mais à partir de 1833, ces groupes vont être poussés vers la dissidence. Et de plus, certains élèves de Jacquet vont devenir des pionniers du mouvement des frères au pays de Montbéliard ou ailleurs. Alors je cite Jean-Frédéric Vernier, bon, qui n'a jamais été d'arbiste, mais qui a laissé derrière lui, derrière son passage, de nombreuses assemblées d'arbistes dans la Drôme, Pierre Ménétré à Châlons, et également Frédéric Viennot, qui fera des avélés venus tantôt au pays de Montbéliard, tantôt ailleurs, et qui est d'ailleurs le père de John Viennot, l'historien bien connu des protestants. Alors en 1850, c'est justement ce Frédéric Viennot qui guidera John Nelson Darby au pays de Montbéliard. Darby se rend d'Angleterre à Genève, où donc il y a ce grand foyer de réveil, et en passant il s'arrête à Montbéliard, il visite ces groupes de piétistes, guidés par Frédéric Viennot. D'ailleurs au passage... vous comprenez maintenant pourquoi Frédéric Viennot a appelé son fils John, John Nelson Darby. Alors, une fois Darby passé, eh bien, plusieurs groupes de piétistes vont devenir ce qu'on appellera des assemblées de frères, c'est-à-dire qu'ils vont être indépendants de l'Église luthérienne. Alors, 7 ou 8 au départ. Donc, vous avez ici une carte qui montre les 7 premières assemblées qui sont soulignées, et puis également des communes où on trouve des familles isolées qui tiennent des petites réunions. Donc Montbéliard, Betoncourt, Terre-Blanche, Colombier-Château, qui est la plus grande, 150 personnes, on parle de 150 personnes, et aussi Betal, Desandans, Lougre et sans doute Longevel, même si je ne suis pas tout à fait certain qu'il y ait eu une assemblée. Alors deux assemblées se sont formées un peu plus tard. Tout d'abord Saint-Julien, en 1876, où un petit groupe de lecture de la Bible existait depuis le début, mais après l'arrivée de Charles-Henri Tissot, Tissot de Betoncourt, une assemblée est formée. Donc voici Charles-Henri Tissot. Non, ça vient. Le voilà. Donc le voilà. Et vous voyez d'ailleurs au deuxième plan la chemise du dimanche qui sèche. Il y aura également Valentinier qui va apparaître en, dès 1860, mais un local sera construit en 1895 par Joseph Rollet, qui est donc l'ancêtre de toutes les familles Rollet, et qui est originaire en fait de Mauffan, en Haute-Saône. En 1895, donc, il construit une maison à Valentigney, il a déménagé, et en annexe de cette maison, il va construire un local de réunion. Alors, son histoire est assez intéressante. Il a dû quitter ce village de Mauffan pour deux raisons. Tout d'abord, c'est qu'il fréquentait l'assemblée de Betancourt, et il n'avait pas de voiture à cheval, donc Mauffan, Betancourt à pied, avec une famille, le dimanche matin, c'était 5 heures de marche. Donc, si on voulait être au culte à Betancourt à 10 heures, il fallait se lever à 4 heures du matin. Et puis, lorsqu'on traversait la forêt du côté de Belverne, eh bien, il n'était pas rare de se trouver nez à nez avec des loups. Bon, il était bûcheron, donc ça ne lui faisait pas trop peur. Mais il y a une deuxième raison aussi, c'est qu'il était assez chahuté par les villageois, qui n'appréciaient pas sa position religieuse, et qui d'ailleurs ne voulaient plus lui vendre de nourriture, puisqu'il était bûcheron, il avait besoin d'acheter des produits de première nécessité, et les villageois ne voulaient plus lui en vendre. Alors justement, comment est-ce que les darbistes étaient-ils perçus à cette époque? Bon, on raconte beaucoup de choses. Hein. On dit que lors de sa visite à Colombier-Châtelot, Darby aurait été aspergé de purin par quelques excités. Bon, ça serait vérifié. Il y a quand même un document officiel qui est un rapport de Pierre Surlot, donc qui a donné son nom à la résidence, je suppose, Pierre-Frédéric Surlot. Donc un rapport de 1864. Il rend compte d'une enquête sur les darbistes au président du directoire, donc il raconte ce qu'on lui a dit sur les darbistes. Bon, c'est suite à une histoire assez cocasse qui s'est passée à Longevel. Bon, il y a eu un enterrement, il semble, d'une famille darbistes, et puis les darbistes ont reçu des cailloux, des mottes de terre, et une personne a été fouettée. Alors, voilà ce que dit Surlot des darbistes. Donc il y a du positif et du négatif. Hein. Côté positif, voilà ce qu'il dit. J'ai de bons renseignements sur ceux de Terre Blanche. Un chef d'industrie m'a dit qu'ils sont polis et laborieux, que leur conduite est régulière, que ce sont les meilleurs ouvriers du pays. Bon. Je suis heureux de vous signaler cette honorable exception. Il convient de placer aussi dans la même catégorie la paroisse de Betancourt, qui compte 40 darbistes dans son sein, hommes, femmes et enfants. Ils ont deux réunions chaque dimanche, à 10h et à 2h. D'ailleurs, ça n'a toujours pas changé. Tout se passe avec le plus grand ordre, ils n'inquiètent personne et personne ne songe à les inquiéter. Leur conduite est régulière, ils sont serviables, ils ne travaillent pas le dimanche, ne fréquentent pas les cabarets. Lors d'une cérémonie funèbre, ils se joignent au convoi mais s'abstiennent d'assister aux services religieux faits à l'église à cette occasion. Le nouveau pasteur de Betancourt, M. Abri, les a tous visités. Et partout, il a été bien accueilli. À Saint-Julien, à Desandans, au Vernois, à Champé, à Montéchroux, à Villars-les-Blamont, il n'y a pas non plus de désordre à déplorer. Ce sont ordinairement les néophytes qui font le plus de zèle et le plus de bruit dans les communes où ils vont s'établir. Bon, et puis il y a aussi du négatif. Alors, mes collègues, attachez vos ceintures. En fait de doctrine, les darbistes sont antinomiens. Ils pensent être les seuls vrais chrétiens. Ils sont assurés de leur salut. Ils se permettent tout sans scrupule, ils se pardonnent tout, ils mettent sur le compte de la chair leurs faiblesses et leurs fautes et disent que l'âme est innocente de leurs mauvaises œuvres. Ils ne s'inquiètent que médiocrement des choses de ce monde et ne travaillent que pour satisfaire les besoins les plus pressants. Ils traitent notre église de grande prostituée et tous les pasteurs de quelque religion qu'ils soient sont à leurs yeux des suppôts de Satan. Voilà les idées courantes à Longevel et à Lougres. Donc vous voyez qu'il y avait aussi des excès quand même chez les darbistes aussi. Je note d'ailleurs que ces deux assemblées de Longevel et Lougres, sur la liste qui figure ici, sont les seules qui ont disparu. Alors, au niveau des autorités locales, alors là aussi, bien sûr, on peut imaginer qu'il y avait des inquiétudes, à part ces petits incidents de voisinage, leur inquiétude provenait du fait que de nombreux prédicateurs suisses se trouvaient dans ces assemblées. Et il faut savoir qu'à cette époque, suite au concordat, pour être pasteur en France, il fallait être de nationalité française. Donc il y a eu des enquêtes. J'en ai mentionné d'ailleurs une dans la brochure que j'ai retranscrite. Donc d'ailleurs, cette remarquable brochure que je vous recommande de vous acquérir. Mais comme ces prédicateurs n'étaient pas vraiment des pasteurs, hein, ils n'étaient pas officiellement pasteurs, ils visitaient ces assemblées mais sans être pasteurs, et puisqu'ils n'étaient pas rémunérés par l'État, on a pensé qu'il fallait les tolérer. Le principal d'entre eux, c'est Abraham Ulvé, originaire de Bavois en Suisse. Donc le voici. qui s'est finalement installé à Bethoncourt, qui a été le principal fondateur de cette assemblée, qui était d'ailleurs la deuxième en importance après Colombier-Châtelot, puisque en 1896, une statistique de Bethoncourt indique la présence de 80 darbistes. Bon, vous me direz, c'est pas énorme, mais il faut quand même, pour une ville comme Bethoncourt, mais à cette époque, il faut savoir que Bethoncourt n'avait que 891 habitants. D'autres aussi se sont installés, comme Louis Vierne, qui venait de Genève et qui s'est installé à Montbéliard. Mais beaucoup d'entre eux venaient occasionnellement donner des réunions. Alors jusqu'à la fin du 19e et même après 1900, cette habitude s'est poursuivie et d'ailleurs elle se poursuit encore. Alors vous avez ici une photo de 1916. On ne voit pas très très bien, bon, où il y a quelques frères suisses dont certains sont connus dans notre milieu pour leurs cantiques qu'ils ont écrits ou des brochures. Il y a Samuel Prodon que nous connaissons, Louis Pogé Junot et d'autres. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a également un Français que j'ai mis en médaillon à gauche de l'image. Donc Jacques Bossardet, qui était de Colombier-Châtelot et qui fut une figure de proue des assemblées de frères au début du XXe siècle. Alors à propos d'une petite anecdote, à propos de ces prédicateurs suisses, il semble qu'ils n'apportaient pas que la bonne parole. Et ils auraient même été à l'origine du succès du dentiste Élie Dubois. Donc Élie Dubois, c'est le père de Paul-Élie Dubois, le peintre donc, le père du peintre. Il faisait partie de l'assemblée de Montbéliard, il avait donc un cabinet de dentiste dans la rue Viette et il avait la réputation d'arracher 100 dents par jour. On disait qu'il arrachait des dents sans douleur. Alors quel était son secret? Eh bien, les frères de Suisse qui visitaient les assemblées lui apportaient du protoxyde d'azote, qui est le gaz hilarant, qui est un anesthésiant qui est encore utilisé. Et donc il a été un des premiers à l'utiliser en France, ce qui a fait son succès puisqu'il arrachait des dents sans douleur. Alors, puisqu'on est dans la famille Dubois, voici encore une toile de Paul-Élie. Alors, c'est de Paul-Élie Dubois, donc. Alors, on ne voit pas très bien, et puis elle est très abîmée. Elle a été retrouvée il n'y a pas très longtemps par le petit-fils de Paul-Élie Dubois. Elle montre donc une réunion à Colombier-Châtelot. Il faut savoir qu'on dit, là, parmi les darbistes, on dit la réunion, et non pas le culte ou la messe. C'est la réunion. Donc, voici la réunion. Donc, on voit des sœurs assises. Et puis ceux qui sont déjà allés dans la salle de réunion de Colombier-Châtelot reconnaîtront la fenêtre au fond du local puisque le lieu n'a pas changé. Si vous voulez voir encore quelques reproductions de toiles un peu sur ce thème de Paul-Élie Dubois, il y aura donc l'expo B de En Dieu mon appui qui commencera samedi à Béthanie, à Desandans, qui montrera un certain nombre de toiles de Paul-Élie Dubois, des reproductions de ces toiles. Alors j'en ai fini avec l'histoire locale et l'histoire générale. Donc voyons un petit peu la doctrine. Quelles sont les bases doctrinales des frères ou des darbistes? Disons tout d'abord qu'ils se reconnaissent dans le symbole des apôtres, même s'il est peu connu parmi nous, c'est-à-dire que nous croyons en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur, en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, mort et ressuscité, qui reviendra au Saint-Esprit comme une personne divine, à l'Église universelle formée de tous les croyants, c'est-à-dire de tous ceux qui croient en Jésus dans quelque dénomination qu'ils se trouvent. Nous croyons au pardon des péchés, à la résurrection, à la vie éternelle. Mais il n'y a pas de credo parmi les frères. Les frères se refusent énergiquement à en écrire un. Ils disent « la référence, c'est la Bible, toute la Bible, rien que la Bible ». Alors, c'est vrai que ça ne facilite pas la communication, quand quelqu'un veut en savoir plus sur notre Église. Mais voilà, on ramène les gens à la Bible. Les frères se reconnaissent dans les valeurs de la Réforme, donc Christ seul chef de l'Église, la foi seule qui sauve, les œuvres témoignent de la reconnaissance du croyant et de la présence du Saint-Esprit en lui, le baptême est considéré comme un acte symbolique qui témoigne de la foi et donc secondaire. Le baptême des enfants est accepté, même si celui des confessants est souvent préféré. Et puis l'Écriture seule, l'Écriture est la seule source qui puisse faire autorité en matière de doctrine, de vie chrétienne et de vie d'Église. Alors, jusque-là, on a des grands points communs avec catholiques et protestants. Et puis alors, leur singularité au sein de la mouvance protestante se situe sur trois points, donc que j'ai déjà mentionné mais que je fais ici ressortir à nouveau. Donc, premièrement, au niveau du ministère. Le ministère est suscité par Dieu, qui confie des dons spirituels à chacun. Par exemple, pour nous, être pasteur, Ce n'est pas une fonction, c'est un don. Avoir le don de pasteur, c'est avoir la capacité donnée par Dieu de consoler, encourager, fortifier les brebis de son troupeau. Et ce don ne demande qu'à être exercé sans qu'il y ait de validation humaine, pas de consécration ni de nomination. Deuxième particularité, au niveau du déroulement des réunions, il n'y a pas de liturgie, pas de préparation. Lorsque l'assemblée se réunit, chacun s'attend au Saint-Esprit pour proposer un chant, prier, donner un message. Il n'y a même pas de responsable de la réunion, ni de président. Rien n'est établi à l'avance, si ce n'est l'objet de la réunion, évidemment, culte, édification, étude biblique ou prière. Par exemple, dans les réunions d'édification, c'est-à-dire où un message biblique est donné, on ne sait pas à l'avance qui va parler, ni sur quel sujet. Il serait très mal vu de préparer un message par écrit, ne serait-ce que d'avoir un plan ou une liste de versets. Cela voudrait dire qu'on a décidé à l'avance qu'on allait prêcher. Ce n'est plus la dépendance du Saint-Esprit. Au niveau de l'autorité, alors au niveau local, il n'y a pas de pasteur, au sens où on l'entend habituellement, ni de responsable d'assemblée locale. Alors là, il faudrait nuancer par rapport aux frères larges, où il y aurait peut-être des différences, mais je parle surtout des frères exclusifs ici. Hein. La notion d'ancien existe, mais ils ne sont pas nommés. Ils sont, je dirais, tacitement reconnus en fonction de leur autorité morale. Alors on peut être reconnu comme un ancien parce que volontiers quelqu'un ira demander un conseil à cette personne pour une question difficile, mais on peut ne plus être un ancien puis le redevenir en fonction de son autorité morale. Et puis sur le plan inter-assemblée, là aussi pas de hiérarchie, aucun frère ni aucune instance ne doit se placer au-dessus des assemblées locales. Chacune de celles-ci doit seulement avoir affaire au Christ en direct et rechercher la communion avec les autres assemblées, bon, dans la mesure du possible. Mais il n'y a pas de structure qui les chapeaute. Donc pas de fédération des assemblées. Donc d'ailleurs, ce qui montre que l'expression, parler de l'église d'arbistes, si vous voulez, c'est un peu un non-sens, étant donné qu'il n'y a pas de structure qui chapeaute les assemblées, il faudrait plutôt dire les assemblées d'arbistes, toujours au pluriel. Le mouvement n'adhère donc pas à aucune fédération, ni évangélique, ni protestante, ni encore moins écuménique. L'unité visible de l'église, si vous voulez, n'est pas un souci majeur. Celle qui importe pour les darbistes, c'est celle qui existe de façon inaltérable entre tous les membres du corps de Christ. Là encore, quelle que soit la dénomination à laquelle ils se rattachent. Alors, vous m'excuserez la déformation professionnelle, mais on dit que pour bien comprendre quelque chose, il faut à la fois un texte et un schéma. Donc, je vais essayer de commenter ce schéma. Donc, si vous voulez, j'ai représenté par des symboles comment fonctionne l'assemblée locale et comment est vue l'Église. Donc, une assemblée locale formée d'individus qui sont représentés par des triangles se réunit autour du Seigneur, qui est au centre. D'ailleurs, la disposition des locaux, donc si vous venez visiter nos locaux mercredi, vous le verrez, les bancs sont pas en cercle, mais sont face à face, avec une table au milieu, donc ce qui montre bien qu'il n'y a pas un responsable qui s'adresse à un public, mais que tous entourent le Seigneur au centre, et chacun s'attend au Saint-Esprit pour recevoir ce qui va être dit, proposer un chant, une prière, une lecture biblique. L'autre vision de l'Église, si vous voulez, il n'y a pas de sous-ensemble dans l'Église. J'ai représenté par des bâtonnets verts des assemblées de frères, admettons, donc qui sont juxtaposés, sans structure au-dessus. J'ai représenté par d'autres couleurs, d'autres groupes éventuellement d'Église, alors qui ont celles-là peut-être des structures. Donc on va dire l'Église catholique, l'Église luthérienne, l'Église mennonite, admettons. Mais pour nous, toutes sont considérées comme des églises locales et font partie d'une grande famille qui s'appelle l'Église. Nous voudrions que rien ne s'intercale entre chaque église locale et l'Église en général. Alors voilà pour la doctrine, et puis très rapidement, un petit aperçu de la situation actuelle. Alors, là, je parlerai uniquement des frères exclusifs, puisque je ne connais pas très bien les frères larges. Voilà, donc, vous avez ici une carte du monde où vous voyez en rouge les pays dans lesquels on trouve des assemblées de frères. Donc, pays anglo-saxons, et puis également dans les pays de mission, en Afrique, essentiellement. Alors, donner des chiffres est très difficile, puisqu'il n'y a pas de registre de baptême, il n'y a pas de notion de membre non plus. Donc, impossible de faire des statistiques. En France, je pourrais vous donner quelques chiffres, mais dans le monde, c'est très difficile. Donc, en France, maintenant. Donc, voilà, une centaine d'assemblées en France. On retrouve les foyers de réveil que je vous ai montrés tout à l'heure. J'ai indiqué le nom des assemblées les plus importantes qui comportent plusieurs centaines de personnes. Les autres sont des petites assemblées, donc c'est le cas au Pays de Montbéliard. Bon, on peut évaluer une centaine d'assemblées, 100 personnes en moyenne chaque dimanche, donc disons 10 000 personnes en France. Ici, une salle de réunion, la plus grande en France. Voilà, bon, alors c'est pas une référence, c'est juste pour vous montrer la plus grande, c'est pas la moyenne. Donc elle fait 1000 places. Je vous la montre parce qu'elle est particulière, c'est la seule qui comporte une estrade. C'est-à-dire qu'habituellement, le local est à plat et les bancs sont autour d'une table. Ici, elle comporte une estrade. Pourquoi ? Parce qu'elle est prévue pour des réunions de conférences bibliques. Donc, il y a 8 personnes qui sont sur l'estrade et qui parlent le plus. Mais tout frère peut intervenir à tout moment. Il y a des micros qui se promènent. Elle se trouve en Ardèche, près de Saint-Agrève. Sur la commune de Mars, alors si un darbiste vous dit je reviens de Mars, il ne faut pas le prendre pour un mystique interplanétaire, hein. C'est un lieu de rencontre, hein, des frères, tout le monde y est allé une fois au moins dans sa vie, et beaucoup de frères, je dirais, y ont même trouvé l'âme sœur, si j'ose dire. Alors, quelques périodiques aussi, c'est à souligner la pérennité des périodiques qui datent tous pratiquement du 19e siècle, même s'ils ont été un peu rajeunis dans leur présentation. Donc, le calendrier La Bonne Semence, qui est très connu parmi tous les chrétiens, qui existe depuis le début du 20e, qui est traduit en une vingtaine de langues et qui a une grande diffusion parmi tous les chrétiens. Également d'autres brochures qui ont souvent jusqu'à 120 ans d'existence. Le message évangélique que vous avez dessus, qui a commencé en 1860. Voilà, on va passer au niveau local. Donc voilà les 7 assemblées actuelles de frères, donc frères exclusifs, hein, je précise. Pour être tout à fait complet, donc je vais quand même les mentionner. Donc Montbéliard, Betoncourt, Saint-Julien, Seloncourt, Desandans, Betal et Colombier-Châtelot. Pour être complet, il faut quand même mentionner d'autres assemblées de type assemblée de frères. Donc une assemblée de frères larges à Betoncourt, une assemblée raviniste à Valentinier et également... une autre assemblée à Valentinier que je qualifierais d'indépendante, et encore peut-être une quatrième, alors je ne sais pas s'il faut la mettre dans la même famille, à Audincourt, qu'on peut apparenter à une assemblée de frères. Vous avez ici, image suivante, la salle de réunion de Montbéliard, donc vous voyez que c'est plus petit qu'à Mars. Donc vous voyez à disposition des bancs, hein, donc c'est circulaire, pas d'estrade. Voilà, donc c'est là que vous serez accueillis mercredi soir si vous le souhaitez. Et puis j'ai mis également les activités de cette assemblée de Montbéliard à laquelle j'appartiens. Donc vous avez un petit peu tout, culte, édification, prière, études bibliques, club d'enfants le samedi et un groupe de jeunes. Donc vous avez les dépliants en bas à gauche. Voilà, alors j'en arrive à ma conclusion. Disons que cette conclusion, j'aimerais la faire sous forme d'un peu une confession, un mea culpa, si vous voulez, parce que je ne sais pas quelle image vous avez des darbistes. Bon, j'ai un peu voyagé, j'ouvre mes oreilles et je m'aperçois que cette image est souvent négative. Alors, je dirais la chose suivante. Ces dernières décennies, les frères ont souvent donné l'image d'une communauté fermée, repliée sur elle-même, perdue dans ses débats théologiques et empreinte d'un certain esprit de supériorité. Aujourd'hui, je crois que beaucoup seront d'accord avec moi pour reconnaître que ces défauts-là sont bien les nôtres. Nous n'avons pas su garder la largeur d'esprit qui animait nos premiers devanciers, ni vivre de façon spirituelle leur conception fraternelle de l'Église. Certains principes de séparation énoncés par Darby dans des contextes bien particuliers ont été appliqués à tort et à travers, et finalement de façon sectaire. Pour l'avenir, nous aimerions retrouver une attitude plus humble et plus charitable au sein de l'Église de Jésus-Christ, et redevenir ce que voulaient être nos devanciers, c'est-à-dire de simples frères parmi d'autres frères. Alors je remercie Joël Goethal pour son aide technique et les heures qu'il a passées devant son ordinateur, et je suis disposé à répondre à vos questions.